protection de la faune vient sous la pression des éleveurs de déclasser le statut de protection du loup. Bonne soirée sur RFI. Tout de suite, Mardi Politique.
Radio G.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir, bonsoir et bonsoir Nolwenn aussi.
Bonsoir.
Alors c'est toi Nolwenn qui va accueillir nos invités dans quelques instants. On va être du côté de Mur-Hérigné je crois ce soir.
Exactement, on va parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle L'Enfant et la Lune. Ça parle d'un sujet très important.
Voilà, et pour les deux prochains jours nous serons en livre plutôt puisque Anne Bourreau sort un livre sur le jardinage. En finir avec ce dicton, je n'ai pas la main verte. Et les boîtes solidaires également qui seront avec nous pour proposer de faire des cadeaux solidaires aux associations pour Noël. Jeudi donc toujours en livre avec le premier festival du livre de Saint-Rémy-la-Varenne. Et tout à l'heure, au cours de cette émission, nous serons aussi en impro. Charles, je crois que tu as une petite surprise pour nous ce soir.
Ouais, salut tout le monde. Écoute, aujourd'hui, on a Lucas en studio. On parle, on voit que l'impro, c'est aussi un truc de famille.
Eh ben voilà, et la famille de Topette, bah c'est parti pour ce soir. 101.5 FM jusqu'à 19h.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Allez, avant tout ça, on fait un point sur l'actu locale avec toi, Émilien, ce soir. Bonsoir Émilien.
Bonsoir Pierre-Benoît.
On commence avec les frais de nettoyage ajoutés aux amendes pour les incivilités sur la voie publique.
Le 25 novembre, le conseil municipal d'Angers s'est réuni pour adopter deux nouvelles mesures visant à lutter contre les incivilités dans l'espace public. La première consiste à facturer les frais de nettoyage pour retirer les tags, affiches sauvages et autocollants sur la voie publique. La seconde prévoit également de facturer les frais de nettoyage liés aux mixtions déversées dans l'espace urbain. Désormais, en plus des amendes déjà existantes de 135 €, un forfait supplémentaire de 80 € sera ajouté, soit une amende équivalente à 215 €. En 2024, plus de 4000 infractions ont été relevées par la police municipale pour des frais d'incivilité.
Un très jeune homme de 15 ans poursuivi pour une explosion dans un collège à Angers.
Cette affaire remonte au 27 novembre à 10h lorsqu'une détonation a retenti dans les toilettes du collège Jean Lursa. Trois élèves se sont amusés à jeter une bouteille contenant de l'acide dans un lavabo, ce qui a provoqué une explosion. Bilan, les trois élèves ont été blessés et ont dû être transportés au CHU dans un état pas grave. L'un des auteurs de l'infraction, un jeune de 15 ans, a été interpellé par la police deux jours plus tard et poursuivi en tant que auteur de l'acte. Il expliquait aux policiers avoir mené cette expérience après avoir vu une vidéo sur TikTok dans laquelle des internautes s'amusaient à jeter de l'acide dans l'eau. La réaction entre ces deux produits provoquait une explosion. Curieux, il a voulu tester cela par lui-même. Il sera donc convoqué devant le tribunal des enfants le 7 janvier prochain.
Un enseignant d'un établissement catholique jugé pour corruption de mineurs.
Lundi 2 décembre, au tribunal correctionnel d'Angers, le prévenu, ancien professeur de lettres de 29 ans, apprécié de ses élèves et bien noté par ses inspecteurs, comparaissait pour être entendu sur des faits de corruption de mineurs, détention d'images pédopornographiques et atteinte sexuelle sur mineurs de 15 ans. Il faut remonter en 2021, en plein confinement. Ce jeune professeur ouvre un compte Instagram et rapidement complimente 4 de ses élèves de manière insistante avant d'entamer des remarques sexuelles et déplacées à leur rencontre. Deux d'entre elles lui partageront des photos intimes et même une âgée de 15 ans au moment des faits va pendant 8 mois se rendre au domicile du prévenu pour des relations sexuelles. Pour Éric Bouillard, procureur de la République, il est classé dans la catégorie des prédateurs. Fin de citation. Il a donc requis une peine de 30 mois d'emprisonnement, dont 18 avec sursis, mais aussi une interdiction définitive d'exercer toute activité avec des mineurs, une inscription au fichier des délinquants sexuels. La défense, quant à elle, a demandé la relaxe, qualifiant la mention de corruption de mineurs inadaptée. Le délibéré du tribunal s'effectuera le 10 janvier prochain.
Merci beaucoup, Émilien. C'est pas des actualités, mais c'est des dates à ne retenir quand même. Le dimanche 15 décembre, c'est mon anniversaire, mais c'est aussi le premier salon du livre organisé par l'association du Prieuré sur la thématique patrimoine et environnement. Des noms, encore une fois, Inès Leroux, par exemple, Leroux, autrice d'Algues vertes, Nicolas Joliveau, auteur de Tino, Emmanuel Litou, responsable du pôle archéologique de Maine-et-Loire, ou le journal La Topette seront présents. Voilà, rencontre avec ces personnes-là et l'occasion d'échanger au travers de leur travail, ces personnes qui ont dessiné le patrimoine sous le prisme des enjeux environnementaux. Plus d'infos sur prieuré-saint-rémy.fr. Et tout de suite maintenant, alors non, on va pas accueillir notre invité tout de suite, on va revenir un petit peu en arrière sur ce week-end, puisque le défi 24 heures Angers Téléthon, dont Radio G est partenaire, a eu lieu, et ça a été une incroyable réussite. On va donc avoir par téléphone son président, Pascal Rullier. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Pierre-Benoît.
Président du Défi 24 heures Angers Téléthon, dont on parle chaque année dans Topette et sur Radio G, puisque nous sommes partenaires. Et quelle fierté, quel bonheur d'avoir vu cet objectif qui était de 40 km pour cette édition 2024 avoir été explosé, Pascal.
Tout à fait. Alors, c'était pas 40 km, c'était 40 000 km, Pierre-Benoît.
Ouais, 40 000 km, bien sûr, oui.
40 000 km. L'année dernière, on avait fait 39 204 km. Donc, on avait estimé faire un objectif de 40 000 km et 40 000 euros reversés pour la FM Téléthon. Et en effet, on a explosé le record, puisque cette année, plus de 63 000 km ont été parcourus. On est en train de faire les ajustements des kilomètres, les vérifications, les rectifications. Mais actuellement, on est à plus de 63 000 km de parcouru, donc un record explosé, résultat d'une météo favorable. On a eu très beau vendredi soir, on a eu très beau aussi samedi. Quand je dis très beau, c'est qu'il n'y a eu pas de vent, pas de pluie, donc une condition idéale pour marcher ou courir autour de l'étang Saint-Nicolas. Plein de bonheur avoir autant de participants, plus de 5100 participants qui sont venus autour de l'étang Saint-Nicolas pour la bonne cause et pour la FM Téléthon. Donc c'est vraiment une vraie réussite cette année.
Est-ce que du coup c'est un euro de don par kilomètre? On peut faire le calcul comme ça aussi? Est-ce qu'on a les chiffres?
En moyenne, c'est ça. Non, les chiffres, on les aura début janvier, puisqu'on a tout le retour de nos partenaires. Certains partenaires reversent à 1 euro du kilomètre, 5 euros, 10 euros du kilomètre. D'autres, c'est des forfaits. Il y a aussi les bénéfices de la restauration. Il y a les dons qui sont donnés sur place dans les urnes et la cagnotte en ligne référencée AFM Téléthon officielle, qu'on retrouve sur défi24h.fr, qui est ouverte jusqu'au 15 décembre. Donc, tout ça, après, ça fait tout un calcul un global. Et on espère, ça, en général, ça retourne à 1 euro du kilomètre environ, mais donc on sera sans doute entre 50 000 et 60 000 euros reversés pour la FM Téléthon.
Et d'un tout petit mot, Pascal, comment expliquer ce succès, cet incroyable bond de kilomètres qui ne cesse en plus de grandir depuis la période Covid?
Exactement, c'est ça, c'est crescendo. Alors, c'est le fruit de plusieurs choses. C'est déjà donc le beau temps, ce que je disais tout à l'heure, pas de pluie, pas de vent, des conditions idéales, pas trop chaud, pas trop froid, vraiment idéal. Toutes les familles, on peut venir. Toutes les personnes qui l'année dernière n'avaient pas pu venir le samedi matin parce qu'il y avait un temps vraiment pas terrible avec du vent et de la pluie, cette année, ils sont venus. C'est le fruit que les entreprises, au fur et à mesure, elles grandissent et ils passent un bon moment, donc ils reviennent les années d'après avec plus de personnes pour dire si j'ai passé un bon moment, donc je reviens. Pas mal de communication, un parrain, Julien Guinebrotière, qui a une force, qui a un combat et qui a su rassembler un peu toutes les personnes. On est passé pas mal sur la radio, aussi on a fait le coup d'envoi des Ducs d'Angers, on est passé à Angers Télé, et tout ça, ça fait une ferveur, une dynamique et qu'on veut garder au fur et à mesure des années. Et puis maintenant on dit c'est inespéré presque pour nous.
Ça devient une très grande famille. Je pense que tu en as été aussi un acteur. Toi et puis tous les bénévoles, vous ne cessez de tout au long de l'année d'y penser, de travailler pour. Et aujourd'hui, c'est le fruit aussi de cette récompense, quoi.
C'est ça. Vu que j'ai été impacté dans ma famille, forcément, moi, je tiens à cœur. Voilà, on me nomme un peu chef d'orchestre. Donc voilà, moi, le but, c'est de chapeauter un petit peu toute l'équipe, aller voir un petit peu les partenaires, même les lycées aussi. On va voir un petit peu les lycées, les écoles, pour amener aussi cette jeunesse, pour dire ce qu'est la FM Téléthon, comment ils aident les familles, les amis, comment ils aident les enfants qui sont malades, bien sûr, mais c'est les familles, les amis, tous les aidants aussi autour des proches et des enfants qui sont malades, ce que fait la FM Téléthon, autre que la recherche aussi, tout l'accompagnement qui est prêt à la FM Téléthon. Donc on parle beaucoup de ça. Et donc oui, moi je suis chef d'orchestre, mais j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes qui m'aident à organiser cet événement. Et le jour J, on avait 152 bénévoles qui étaient présents avec nous pour organiser ces 24 heures. Nous, c'est 24 heures, mais en fait, finalement, c'est du vendredi matin sur place à l'étang Saint-Nicolas jusqu'au samedi soir 18h. Donc ça fait plus d'une trentaine d'heures sur place. Et tout ce qui est en amont aussi.
Merci Pascal et bravo à toi, à vous surtout pour cette édition incroyable, et on l'espère que le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. On vise les 60 000 km au moins, on espère.
On verra ça, on verra si on peut atteindre. Bien sûr, on va avoir d'autres réunions d'organisation pour l'édition 2025. Et je remercie aussi bien sûr Radio G d'être partenaire fidèle depuis quelques années avec toi Pierre Benoît. Merci beaucoup pour ce que vous faites, parce que ça fait aussi partie de cette réussite dans les médias que vous parliez dernier du défi 24 heures. C'est comme ça qu'après, tous les gens viennent autour de l'Estation Saint-Nicolas avec le sourire pour la bonne cause.
Eh bien, merci à toi, Pascal. Et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. On essaiera d'embarquer l'ensemble des 130 bénévoles de la radio. On y croit pour exploser encore une fois ce record. Et sans transition, nous accueillons nos invités de ce soir avec toi, Nolwenn.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Nolwenn.
Bonsoir. Ce soir, on parle théâtre avec le CCJC, le Centre culturel Jean Carmet de Mur-et-Régnier, qui est partenaire de l'émission Topette. Et on va parler d'une pièce précisément, ça s'appelle « L'enfant et la lune ». Ça sera joué donc le 14 décembre au CCJC par la compagnie La Syrinx de Pan. Et ce soir, pour en parler, on est avec Emma Audichon, assistante culturelle du CCJC. Bonsoir.
J'ai récupéré le micro au vol. Oui, bonsoir.
Et tu es venu avec Benjamin Béliard, bonsoir.
Oui, Béliard.
Béliard, pardon, bonsoir. Vous occupez de la création musicale et il y a aussi Caroline Violier, bonsoir.
Oui.
Tu es comédienne et du coup vous êtes tous les deux membres de la compagnie La Syrinx de Pan et vous avez créé la pièce donc L'enfant et la lune, qui est destinée au jeune public à partir de 6 ans. Elle parle d'un sujet important, alors je me suis pas entraînée à dire le terme avant, c'est le xeroderma pigmentosum. C'est une maladie génétique héréditaire rare qui est caractérisée par une sensibilité extrême au rayonnement UV. Donc c'est présent dans la lumière du soleil et ça interdit donc à ces personnes toute exposition au soleil en l'absence d'une protection totale. Est-ce que, Caroline, tu peux un petit peu nous présenter l'intrigue de cette pièce ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est l'histoire de Selenia, qui est une petite fille qui est atteinte du xeroderma pigmentosum, qui est la maladie des enfants de la Lune.
Chapeau.
Merci beaucoup. Et elle vit avec sa maman, qui la garde pour la protéger dans une chambre cage. Elle connaît du monde extérieur seulement ce qu'elle a découvert dans les livres. Elle a tout un imaginaire à elle toute seule dans sa chambre. Et comme elle est seule, elle a lié une amitié un peu particulière avec la lune, avec qui elle parle tous les soirs. Et un jour, un enfant va se promener près de chez elle, pour partir à la chasse aux fantômes, et va en fait faire la rencontre de Selenia. Ensemble, ils vont se lier d'amitié, ils vont essayer de convaincre la mère de Selenia de lui permettre de réaliser son rêve, qui est d'aller voir la mère. Voilà.
Et du coup, comment on aborde ce sujet de la maladie, qui est un sujet un petit peu compliqué? Comment c'est traité dans cette pièce? Est-ce qu'il y a une façon particulière de l'aborder?
Oui, alors c'est un spectacle qui est très visuel, qui est aussi, en fait, c'est aussi un spectacle musical. Donc on a toute la belle création musicale de Benjamin Béliard, qui est également présent sur scène. Donc qui joue pour créer des musiques, mais aussi des ambiances et de véritables interactions musique-jeu. Et en fait, au-delà de parler de cette maladie spécifique, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir parler de l'isolement que cela peut créer et de la différence, et de comment on peut faire pour vivre ensemble et s'épanouir avec nos différences.
Et est-ce que, du coup, tu disais, c'est mis au travers de la mise en scène qu'on fait aussi passer le message. Est-ce que tu peux nous donner à voir un petit peu à quoi ça ressemble sur scène? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des éléments de décor particuliers?
Oui, alors il y a un élément très spécifique qui prend toute la place, qui est unique, c'est la chambre-cage de Selenia. Donc, c'est une chambre avec des barreaux, mais elle peut monter sur le toit pour pouvoir parler à la lune le soir. Et je voudrais pas vous spoiler, mais cette chambre-cage se transforme à la fin du spectacle.
Et si on continue à parler un petit peu de la mise en scène, du coup, Benjamin, vous vous occupez de la musique. Comment on fait pour transmettre des messages au travers de la musique? Comment on compose toutes ces musiques?
Ben, tout d'abord, il a fallu composer des choses, plein de musiques différentes pour pouvoir les proposer à Caroline et au reste de l'équipe. Pour ça, je me suis mis quelques contraintes, parce qu'il fallait aller assez vite. Et du coup, je me suis dit que j'allais rechercher la fréquence de la Lune, parce que tout vibre dans l'univers. Donc je me suis dit, il y a forcément une fréquence pour la Lune. Et j'ai découvert que la Lune a une fréquence d'à peu près 400 Hz, dans les fréquences audibles par l'homme, ce qui correspond à un sol dièse. Donc je me suis dit, tiens, je vais tout faire dans la tonalité de sol dièse, ou un truc un peu plus technique, en fa mineur, sa relative mineure, voilà. Donc ça me donne déjà un cadre pour composer. Après, j'avais les instruments que j'avais, c'est-à-dire j'utilise un synthé, un piano et puis un petit looper. Et je me suis restreint à ça volontairement pour vraiment aller au plus vite, quoi. Et puis à partir de là, j'ai proposé plein de musique. On a écouté ensemble, on a sélectionné des choses. Et ensuite, bah, c'est ça qui m'intéresse dans ce travail surtout. C'est il faut se mettre au service de la mise en scène, au service des comédiens, leur jeu, leur respiration, leur façon de parler, d'interagir. Et la musique doit faire vraiment partie intégrante de tout ça. Donc c'est beaucoup d'écoute, d'observation. Et comme je suis sur le plateau avec eux, c'est un petit peu un personnage supplémentaire, quoi, qui intervient.
Et vous, du coup, vous composez en live la musique en même temps sur scène. Comment ça se passe?
Alors ça a commencé comme ça. Grâce à certaines machines, on peut quand même enregistrer des parties pour pouvoir jouer dessus. Mais j'utilise pas d'ordinateur. Et donc oui, ça se joue en live, en direct. Il y a de la chanson aussi dans le spectacle. Donc j'accompagne les comédiennes dans leur chant. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est juste, c'est comme pour moi un troisième ou quatrième protagoniste sur le plateau.
Et chaque personnage a son propre thème musical, c'est ça?
Oui, alors ça, c'est pas nouveau. Ça date de Wagner, à peu près. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas aussi partir là-dessus? Donner une couleur, une atmosphère pour chaque personnage, puisque chaque rôle a vraiment son identité propre. Et voilà. Donc, il a fallu répondre à ça aussi.
Et en parlant des personnages, du coup, Caroline, toi, tu joues un personnage. Est-ce que tu peux un petit peu nous le décrire? Quel est-il?
Oui, tout à fait. Je joue la maman de Célinia. Et donc, c'est une mère qui est très, très protectrice, qui veut le meilleur pour son enfant. Au point où des fois elle va peut-être oublier d'écouter quelles sont les envies de son enfant, qui est Célinia. Mais elle veut son bien avant tout.
Et comment on fait du coup pour s'imprégner du personnage, pour vraiment le jouer à fond, parce que du coup c'est un sujet très important. Est-ce que c'est plus compliqué que d'autres pièces ou...
Est-ce que c'est au niveau du personnage?
Oui.
Je crois que à chaque fois c'est un nouveau travail, une nouvelle chose, des nouvelles recherches. De toute manière, c'est toujours différent quand on a quelque chose à raconter, une histoire à raconter. Là, c'est vrai qu'on avait donc un texte déjà comme support, comme point de départ. C'était un texte que j'avais écrit auparavant. Et donc là, il s'agit vraiment de travailler sur les personnages avec ce qu'on a de ce texte-là et de ce qu'il raconte pour pouvoir porter l'histoire. Mais je crois pas que ce soit plus difficile. C'est vraiment se mettre au service de l'histoire.
Et comment on fait pour s'adapter à un public si jeune, 6 ans, c'est quand même très tôt, pour pouvoir comprendre ce genre de thématique?
Eh bien, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est pas jeune du tout. Déjà, comme j'ai dit, c'est un spectacle qui est très visuel. Il y a beaucoup d'images visuelles, beaucoup de jeux. Il y a la musique aussi. Mais de toute manière, on est capable, très jeune, d'écouter des histoires, puisque... Souvent, il y a des adultes qui nous lisent des histoires avant de dormir, et on n'a même pas besoin des images, parfois, puisque l'imaginaire est très très fort, et se développe énormément, très jeune.
Emma, toi, est-ce que tu as pu voir cette pièce? Qu'est-ce que tu en penses?
Eh ben oui, j'ai eu la chance de pouvoir, puisque du coup, on a accompagné la compagnie La Syrinx de Pan dans la création, et on les a accueillis pendant une semaine pour finir de... Enfin, en tout cas, pour continuer le travail en cours. Donc c'était au mois d'octobre, et donc j'ai eu l'occasion de voir un filage à cette occasion-là. Et moi, ce que je voulais aussi un peu mettre sur la table, c'est que bon, déjà, je trouve que 6 ans, c'est pas du tout trop jeune pour aborder des questions de la différence, de la maladie, de l'impact de l'isolement, de ce que ça peut faire dans une vie qu'être malade. Il y a des livres pour enfants qui parlent de ça et qui sont même lus bien avant. Enfin, c'est des thématiques que les enfants ils comprennent, qu'ils voient, qu'ils sentent. Et au contraire, je trouve ça plutôt important de les mettre sur scène pour que ils aient des supports de réflexion aussi à ça. Et puis moi, ce que j'ai trouvé aussi dans cette pièce, c'est que au-delà de la maladie, je trouve que finalement la maladie, elle est un prétexte et enfin, elle est le sujet effectivement, mais elle n'est pas centrale en fait dans la pièce. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Pour moi, ce qui est vraiment important, Et ce que la maladie permet de mettre en avant, c'est la relation mère-enfant. Et du coup, peut-être plus largement parent-enfant, même s'il n'y a pas de figure de père présente. Mais du coup, dans cette relation mère-enfant, ce que je trouve assez beau, c'est comment est-ce que la mère, elle a ce fort désir et qui est très viscéral, on le sent, de protéger son enfant quoi qu'il arrive. Et comment l'enfant, lui, et c'est normal parce que c'est un enfant qui grandit, il a besoin de se détacher de sa mère, de s'en aller, de s'en décoller et d'aller voir ailleurs, d'aller faire d'autres choses et d'aller être stimulé par d'autres choses. Et comment ça peut rentrer ce désir de s'évader, de s'émanciper et en même temps ce besoin de retrouver sa mère quand on a peur et quand on a besoin d'elle. Et ça fait partie des étapes de l'apprentissage et de grandir. Et je trouve ça beau parce que ce spectacle, quand bien même il y a la maladie qui est abordée, bah, il y a aussi surtout ce truc de c'est quoi être enfant avec sa maman et quelle relation on a et du coup comment on vit. Donc finalement, c'est un spectacle qui peut aussi parler de ça, et c'est intéressant de voir comment les enfants, ils retiennent pas tous la même chose des spectacles, et où il y en a, ils avaient même pas retenu que l'enfant était malade, enfin, dans les retours qu'on a eu après le filage. Donc, vraiment, ils ont une capacité à avoir des doubles lectures, voire des triples lectures sur des spectacles, et donc, non, je pense que faut pas avoir peur que la thématique soit dure pour les enfants, puisque la thématique, elle dépasse complètement
cette question-là. La fréquence de la Lune, c'est 420,88 MHz, hein, c'est ça, Benjamin? Nous, c'est 101.5 FM, voilà, pour Radio G et Topette. On va écouter, on va faire une pause musicale, on revient avec vous dans quelques instants. On écoute Gisèle de Emma Peters et Joyce Cola. Je sais pas si c'est du sol dièse, mais Benjamin nous dira ça dans quelques instants.
Et tu ne vis que pour les caméras, les appareils photos. Et tu ne vis que pour les miroirs, le regard des autres et le Chanel Coco. Et te faire changer, oui, j'essaye. Mais chez toi, tout est si fake. Tu ne jures que par les caméras, les Ferrari. Et le champagne à coco. Oh Gisèle, Gisèle, quelle misère. Tu ne vis que dans le virtuel. Pour nous tu n'as plus aucun mystère. Les jupes aussi courtes que les nuits de ton père. Tu incarnes tout ce que je déteste. Tu les montres mais tu ne veux pas donner tes fesses. Encore un soir, tu vas ignorer tous ces mecs jusqu'à 5 du mat. Tu vas rentrer seul, c'est cher, ouais, c'est pas l'éclat. Bref, encore un soir où tu te doites. Et tu ne...
C'était Gisèle de Emma Peters, c'est Joyce Cola. On reprend l'antenne sur le 101.5 FM de Radio G, car nous avons déjà une discussion très intéressante avec Charles hors antenne. Mais Charles, on l'entendra dans quelques instants à 47 précisément pour l'édito en pro. Oui, vas-y, tu veux parler dans le micro, allons-y Charles.
Oui, ok. Non, mais en fait, juste ce qu'on était en train de dire hors antenne, c'est que c'est hyper intéressant aussi, moi, ce que je trouvais dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est de parler du parent qui a son enfant qui est malade.
Alors juste pour recontextualiser, parce qu'il y a peut-être des gens qui prennent l'émission en cours de route, oui. On parle de L'Enfant et la Lune, la nouvelle création, la pièce de la compagnie de la Syrinx de Pan. On est avec Benjamin et on est avec Caroline aussi. Et du coup, ça parle de là. Alors là, j'ai pas le terme sous les yeux, donc je compte sur toi, Nolwenn ou Caroline, pour me dire le terme précis d'une enfant qui est malade atteinte de...
Je sais pas le mot exact, j'arrive jamais à le dire. C'est
xeroderma pigmentosum, mais on peut dire la maladie des enfants de la Lune.
Voilà, tout simplement.
Alors on va dire ça. On va dire ça rendu là.
Et donc voilà, Charles.
Donc c'est ça. Et en fait, juste sur un terme un peu plus large, quand on parle d'enfant malade, et ce qu'on disait, c'est évidemment l'enfant, c'est la première victime de la maladie. Donc c'est sûr que il y a tout un dispositif qui est autour de ça. T'as plein d'associations qui se concentrent autour de réaliser les rêves d'enfants malades. T'as je pense aux clowns médecins aussi qui vont. Mais on a tendance à oublier, et c'est ce que t'as dit tout à l'heure, Caroline, qu'on a tendance à oublier que les parents aussi, les parents d'enfants malades, ils sont mis un peu de après, ils sont un peu mis de côté, mais faut surtout pas les oublier, parce que aussi, quand un enfant qui est en soins longs au CHU ou capable, tu dois mettre ta vie en parenthèse pour t'occuper de ton gamin, et il y a vraiment que ça qui prend tout, c'est un trou noir, hein. Il y a que ça qui compte, et ces parents-là aussi ont besoin d'être écoutés et d'être accompagnés.
Et justement, si on raccroche avec la thématique, le défi 24 ans en Téléthon dont on parlait tout à l'heure, justement sur les maladies rares, c'est aussi à ça que servent les dons, à accompagner les parents qui sont aussi tout autant concernés. Effectivement, on continue à en parler, je crois, Nolwenn, de cette pièce en tout cas.
Exactement, exactement. Si on parle du coup plus de la compagnie du Syrinx de Pan qui a créé cette pièce, est-ce que ce rôle d'éducation et de sensibilisation à la maladie, c'est des valeurs que justement la compagnie veut porter, Benjamin?
Alors c'est bien, mais moi je ne sais pas quelles sont les valeurs vraiment de la compagnie, parce que moi je travaille avec cette compagnie, je ne fais pas partie de la compagnie dans sa création et tout, je n'ai pas...
Est-ce que c'est des valeurs auxquelles vous êtes sensible?
Alors, forcément,
particulièrement?
Ce sont des valeurs auxquelles je suis sensible, j'ai des enfants, tout ça, ça me touche, et en plus une maladie... dont on parle peu et qui, enfin moi que je connaissais vraiment par les médias, mais j'en ai entendu parler il y a très très longtemps et je trouvais ça assez surprenant. Il y a eu des films aussi, je crois, faits dessus, mais je trouvais ça intéressant d'amener ça aussi au théâtre et d'aller aussi chercher le public plus jeune, quoi, pour les sensibiliser à ce genre de maladie, on va dire un peu rare, quoi. Parce que on en parle peu, hein. Et oui, forcément, ça m'a touché. Je trouve que l'histoire est touchante et belle. Et en plus, connaissant le spectacle maintenant, je le trouve encore plus joli de par voilà sa création scénique et bon, musicale accessoirement, mais ça.
Caroline, c'est le but justement de sensibiliser le jeune public à ça.
Oui, ça. En fait, pour. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse au niveau de la compagnie, c'est vraiment, ce qu'on veut, c'est créer du lien social en racontant des histoires, en partageant des moments. On fait aussi d'autres types d'interventions, par exemple des ateliers dans les hôpitaux ou même des ateliers en milieu carcéral. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir rencontrer des gens, partager, réfléchir, rêver ensemble, créer du lien social. Et donc cette thématique de la maladie, de cette maladie spécifique, elle m'intéresse parce qu'elle est particulièrement isolante, mais qu'elle vient aussi, comme on l'a dit justement juste avant, très justement, pour l'enfant qui est lui-même malade comme pour les parents ou les personnes qui accompagnent. Et donc on vient surtout parler de cette différence, de cet isolement et de comment on peut ensemble faire corps social, faire société, vivre ensemble. C'est ça qui nous intéresse. Et ça m'intéresse effectivement d'en parler avec des jeunes personnes qui font partie de la société et qui donc vont avoir besoin, et c'est important pour eux qu'ils prennent conscience de ça.
Et vous êtes peut-être en contact avec d'autres compagnies, des associations qui justement aident à sensibiliser, à porter des projets comme celui-ci?
Oui, nous on travaille du coup avec différentes structures et associations, avec des écoles, voilà, on fait notamment aussi des interventions à l'hôpital à l'hôpital psychiatrique de Saint-Jean, ou encore des interventions en prison, comme je vous le disais. On est aussi en contact du coup avec des associations qui justement, avec l'association des enfants de la Lune, pour essayer de voir nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est aussi pouvoir amener ce spectacle à des personnes, à des publics qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer. C'est vrai que ça demande des conditions spécifiques, aussi des financements, puisqu'il faut pouvoir les accueillir dans un lieu qui puisse et accueillir le spectacle et accueillir ces personnes en sécurité.
Et si on revient un petit peu, il y a 5 ans en arrière, à la création de la compagnie, c'était en janvier 2020. Comment c'est venu l'idée de créer cette compagnie de théâtre?
Alors, en janvier 2020, c'est vraiment une date très intéressante, puisque c'était juste avant le Covid. L'envie de créer cette compagnie, elle est née de l'Académie supérieure de théâtre d'Anjou. Donc on était 4 camarades de promotion. C'est l'année juste après notre sortie. Moi, j'étais en école à Paris, à l'école internationale Jacques Lecoq. Et on avait déjà pour volonté de créer des spectacles ensemble. On savait qu'on voulait travailler ensemble. Et donc on a décidé de la créer un peu rapidement puisqu'il y avait déjà un projet qui était en préparation, en fabrication. Et donc l'idée c'était de pouvoir le jouer, le créer, le monter. Mais la vie, on a décidé un peu autrement, comme vous savez tous ce qui s'est passé.
On parle du Covid. Pourquoi?
Comment vous avez justement réussi à passer cette étape du Covid? Il y a eu des moments compliqués et maintenant ça va mieux ou comment ça s'est passé?
Comment ça s'est passé pour nous? Donc nous, c'était vraiment particulier puisqu'on n'avait vraiment pas commencé en fait. Ça nous a arrêté juste au tout début. Moi, de mon côté, j'ai fini tranquillement ma formation à Paris. Je suis revenue, comme tout le monde, on essayait d'appréhender, de voir comment ça allait se passer. Et en fait, ça nous a donné du temps pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on voulait vraiment monter? Quel était le premier texte ou création qu'on voudrait proposer au public et pour laquelle on voulait travailler en tant que professionnel? Et ça nous a donné ce temps-là. Et c'est pour ça que notre première création collective, ça a été L'Intervention, qui est une petite pièce courte, comédie courte de Victor Hugo, que nous avons monté en 2021.
Maintenant, vous avez pu...
Juste, on peut renvoyer vers le podcast, puisque vous étiez venu dans l'émission à l'époque pour en parler, justement. Je ne sais plus quand c'était, mais
oui.
Fouillez.
Et j'imagine, depuis, vous avez pu monter plusieurs spectacles. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir, d'autres spectacles sur d'autres sujets?
Oui, tout à fait. Il y a Carabine Party, qui est un solo de clown. C'est Carabine qui organise son anniversaire. Elle est persuadée que ça va être la fête de l'année. Elle a invité les plus grandes stars, les plus grandes vedettes. Ça va être l'événement de l'année dont tout le monde va se rappeler. Malheureusement, comme vous en doutez, ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. Ça va aller de catastrophe en catastrophe. Elle va essayer de pouvoir maintenir quand même pour en faire une très très belle fête. C'est un spectacle d'anniversaire, donc il y a plein de choses pour vous teaser un petit peu. Il y a un gâteau chocolat qui est préparé en direct live. Carabine est sur patin à roulettes pendant tout le spectacle. Il y a même une danse de tango catch avec Jérémy, son super ami ours en peluche. Et ça joue au festival Sachauf.
Oui, exactement. On va retrouver Carabine Party au festival Sachauf. Alors, j'ai plus la date exacte en tête, mais en tout cas,
c'est en février, ça. Hein,
c'est en février. C'est la semaine du 18 au 23 février, il me semble. J'ai peur de raconter une bêtise.
Attends, Emma, ce que je te propose, c'est on va lancer une petite pause musicale. Comme ça, on va avoir le temps d'aller retrouver la date et on pourra donner l'info précise. Juste pour la petite anecdote, Benjamin, c'est aussi toi qui fais le mixage, je crois, sur Carabine Party. Non?
Non, pas du tout.
Ah non, c'est pas toi, je pensais. En fait, bon, bah, fausse fake news.
Vraiment, Caroline m'a appelé pour ce spectacle-là.
Voilà, le spectacle avec la fréquence de la Lune, on la rappelle quand même, 428. 28 ou 80. On va retrouver cette info. Allez, on écoute Keep It Simple rapidement de Soupa Chill et puis on vient ensemble sur le 101.5 FM. Celle-là, je la connais, cette fréquence.
We're bringing funk out the bag, cause the times are a drag and we're stuck. We're up here gunning for luck. We run them up from the start till the finish. Where's it gonna end? Super chills a killer, getting illa with another trend. Beats, we're gonna make a mad on the streets, going crazy, cause music's the thing that has saved me. Nothing else is heavy, hard hitting like the bass beat banger. I'm on another planet like Clanger, making golf with the womble. You like this ensemble? Then listen, I'm mic'd up, man on a mission with the madness. Complete the insane, never beat in the game, still a winner. Finna dinner, getting served on a fresh plate. Only gonna fail if I test late, impossible. Burning up a stage like a fossil fuel. Gas to the flame, adding fuel to the fire. Chatting shit when you spit, you're a fool, you're a liar.
We keep it simple.
Kibble Simbrol, Super Chill sur le 101.5 FM de Radio G. Je commence à avoir un accent nord-américain. C'est normal car nous avons, certains le qualifient comme ça, notre Québécois national Angevin qui arrive dans quelques instants avec l'édito impro et il n'est pas tout seul ce soir. Mais avant tout ça, on retourne avec toi, Nolwenn. On est toujours au CCJC puis on parle de l'enfant et la lune et des actus du CCJC aussi, le Centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné.
Exactement, donc on parlait tout à l'heure de la pièce L'Enfant et la Lune de la troupe La Syrinx de Pan. Caroline, qu'est-ce qui est important de retenir sur cette pièce particulièrement? Quel message elle veut faire passer?
Très important de retenir que c'est un spectacle musical merveilleux et drôle aussi, car je sais que c'est une thématique lourde et que ça peut faire peur. Bien sûr, nous on a envie de parler de lien social et de cohésion et de vivre ensemble, et ça passe aussi par l'humour et pour passer un bon moment, pour parler de choses importantes.
Benjamin, comment on arrive à mettre en lumière ce message au travers de la musique? Comment on fait?
Car c'est très musical, elle a dit Caroline à l'instant. Hein, donc, en quoi c'est très musical?
C'est très musical parce que il y a de la musique, aussi bien de la musique d'ambiance, donc qui va venir habiller entre guillemets certaines scènes. Il y a du chant. Maintenant, comment on rentre en phase avec ça? C'est vraiment une recherche. En fait, le plus gros du travail, selon moi, ça a été plutôt d'aller chercher des textures sonores via les synthés, tout ça, qui pouvaient moi m'évoquer cette atmosphère, la nuit, l'isolement, le côté, la relation aussi un peu privilégiée qu'on peut avoir, comme cette histoire qu'elle se raconte avec son amie la Lune, et puis après avec le petit garçon qu'elle rencontre. Donc voilà, c'est vraiment un choix que je fais, de me dire tiens, ce son là ça me parle, ce son là ça me parle, et après qu'est-ce que je fais? C'est comme si j'allais chercher de la matière, puis après je crée quelque chose, quoi.
Emma, j'imagine que c'est une fierté de pouvoir programmer des pièces ou messages si forts, et en plus des compagnies locales.
Non, pas du tout. Non, mais oui, bien sûr, on est hyper, on est vraiment très contents, et on trouve que c'est vraiment une de nos missions, justement, en tant que centre culturel sur l'agglomération angevine, de pouvoir soutenir la création locale et la création aussi de compagnies qui ne sont pas internationalement connues. On trouve que c'est aussi un bel endroit pour défendre justement des artistes qui ont du talent et qui sont de chez nous, et parce que nos régions ont du talent. Et puis après on a aussi été vraiment touchés par la thématique du spectacle, par le fait que ce soit quelque chose qui s'adresse à tous, que ce soit un spectacle familial aussi, vraiment, que ça puisse amener des familles à aller voir ce spectacle ensemble et à se questionner ensemble sur c'est quoi la différence, qu'est-ce que vivent les autres enfants dans d'autres familles, comment est-ce qu'on vit avec son papa et sa maman à la maison, et quelles sont les libertés qu'on s'accorde ou qu'on ne s'accorde pas. Et du coup, c'est ça qui est assez beau, je trouve, c'est que ça va être, je pense, un super endroit et d'émerveillement et d'échange aussi en famille.
Et concernant le CJC, est-ce qu'en moins d'une minute, il y a d'autres petites actus à venir pour la fin d'année?
Oui, alors là, on a particulièrement ce week-end les concerts de l'Harmonie Panetier. Alors, c'est vrai que j'en parle vraiment rapidement, puisque du coup, pour l'instant, ils sont complets. Si jamais vous souhaitez venir, vous pouvez soit vous inscrire sur la liste d'attente, soit venir au pied levé juste avant la représentation éventuellement. Et donc, ce sera l'Harmonie Panetier, qui est une harmonie composée de 80 musiciens. Il y aura également un chœur de 30 choristes de femmes du coin, et qui vont venir nous présenter un beau spectacle où ils viennent remuer ciel et terre.
Ciel et terre, on en avait déjà parlé un petit peu, je crois, dans l'émission précédente. Je suis prêt à parier qu'il y a encore d'autres dates à retenir, en tout cas quelques-unes. On pourra le faire tout à l'heure en fin d'émission. Merci Emma, merci Nolwenn, merci Caroline, merci Benjamin. Restez avec nous, car là arrive c'est le point d'orgue de l'émission Topette, un mardi sur deux, puisque c'est l'heure de l'édito impro avec Charlot.
L'édito impro de Topette avec Charles.
Le point d'orgue, rien de moins. Allez, salut Pierre-Benoît, salut les copains, salut les improvisants angevins. Dans les derniers épisodes, je vous ai amené à Tokyo. Ah, on se souvient, on est allé avec Impro Tokyo, on est allé au Mondial d'Impro en Belgique, hein, où l'équipe du Québec, on le rappelle, hein,
a gagné. Trop fort.
Mais aujourd'hui, tu vois, je trouvais que j'avais un bilan carbone qui explosait tous les records. Donc aujourd'hui, j'avais envie de la jouer un peu plus petit, et on va rester en Anjou. Question de favoriser les circuits courts, hein, et les produits du terroir. Je vous propose donc ce soir une histoire familiale, tout le monde. J'ai avec moi en studio Lucas, qui est le premier d'une fratrie d'improvisateurs. Salut Lucas, ça va?
Bonjour Charles, bonjour Pierre-Benoît. Oui, ça va très bien, et vous?
Oui, ça va, ça va, ça va. Dis, écoute, Lucas, juste pour vous expliquer un peu, Lucas, il y a très longtemps, on a fait, moi je l'ai coaché en impro, mais j'aimerais ça que tu nous racontes, s'il te plaît. Toi, Lucas, qu'est-ce qui t'a amené à l'improvisation?
Alors, moi, ce qui m'a amené à l'impro, c'était en quatrième avec Monsieur Rémi Guédon, prof d'histoire géo.
Au Collège Jean Rostand.
Oui, au Collège Jean Rostand, qui m'a fait une présentation d'une heure. J'ai pas accroché, j'ai même détesté. C'est en troisième où j'ai plusieurs amis qui m'ont forcé la main pour faire de l'impro. Et je n'avais pas aimé la première séance, mais j'y suis retourné, sûrement parce que je suis maso. Et au final, bah, j'ai aimé.
Bon ben super. Et toi, t'as une histoire familiale un peu particulière. T'es le premier d'une grande fratrie, c'est combien? Trois?
On est trois.
Trois, quatre. Et du coup, est-ce que tu peux me faire une présentation globale de ton histoire familiale?
Alors, moi, une fois que j'avais fini mon brevet, je suis parti sur Cholet pour faire mes études de design. Et je n'ai plus revu, du coup, mes frères et sœurs durant ce temps-ci, puisque j'étais à l'internat.
Et donc pendant 3 ans?
Pendant 3 ans. Et de leur côté, eux, ils ont continué, ils ont fait du théâtre d'impro. Et j'étais beaucoup moins avec eux. Et notre lien, on va dire, familial, c'est un peu détérioré. Je les voyais moins souvent. Et en plus, nos parents sont divorcés, ce qui faisait qu'ils allaient plus chez mon père et moi moins souvent, ce qui faisait que je les voyais une fois tous les mois.
Donc grosso modo, ton frère, tes deux frères, ils se sont mis à faire de l'improvisation. Et toi, t'es revenu dans cette famille-là. Et ça a été quoi le rôle de l'improvisation dans ton cercle familial?
Eh bien, lorsque je suis revenu, on n'avait plus de centre d'intérêt, on va dire, commun. Et en fait, on était un peu comme des colocataires. Le week-end, je le croisais dans la chambre, je lui disais bonsoir, il me répondait bonsoir. C'était le seul
dialogue. Et c'était tout, quoi.
Seul dialogue. Et du coup, grâce à l'impro, eh bien, c'était le seul centre d'intérêt qu'on avait en commun. On ne parle que de ça, du coup, quand on est à la maison, puisque c'est la chose qui nous anime les uns avec les autres. Et voilà.
Et du coup, c'est et toi, de sorte que tu fais plus d'impro, toi t'en joues pas, tu joues plus du tout, mais tu vas en voir quand même.
Oui, c'est ça. Moi, je fais plus d'impro, mais je fais quand même partie de l'assaut Impro Très Lasé en tant que graphiste.
Oui.
Et même si je joue plus, je vais quand même voir. Je participe. Je suis quand même un membre de l'assaut. Du coup, j'ai quand même un pied dans le monde de l'impro en général.
Donc, ça veut dire que, avec tes frères, tu mets à parler impro dans la vie de tous les jours, à table. Comment ça se passe dans la vie familiale?
Dans la famille, en général, soit on va voir le week-end, du coup, des matchs d'impro ensemble, que ce soit souvent c'est sur Trélazé puisque c'est plus proche de chez nous. Et après, on fait des débriefs assez longs, un peu professionnels, où on dit « lui, j'ai aimé, lui, j'ai pas aimé, moi, j'aurais fait comme ça ». Et sinon, c'est souvent à table, le soir, c'est le moment où on se retrouve tous. Et là, ça part en match d'impro qu'on a
à
improvisé.
À table, carrément.
On vote. Et même des fois, ma mère, mon beau-père, ils sont agacés. Ils nous disent « mais les gars, faut manger au bout d'un moment, faut arrêter de jouer ».
Mais vous, en tant que frangin, une fratrie qui est un peu éclatée, aussi parce que famille reconstituée, vous vous retrouvez autour du match d'impro.
Oui, c'est ça.
Bon, mais c'est chouette à voir. Et du coup, et tout le monde, donc, simplement pour vous dire, moi je trouvais cette histoire hyper touchante, hein, puis j'avais envie de la partager avec tous les improvisants joints, et vous aussi autour de la table. Juste cette idée-là que l'impro puisse être un terrain de rencontre entre personnes d'horizons différents, et ce, même hein, parfois dans la même famille, hein, je trouvais que c'était un super message. Je te remercie Lucas pour ton partage. Je salue en passant tes frères et surtout, je souhaite une très bonne chance à tes parents parce qu'une famille d'improvisateurs, ça doit pas être toujours reposant.
Eh bien, merci beaucoup, Charles, pour cette petite... Oh là, le jingle parle un petit peu trop tôt, car nous avons des actus aussi à traiter avec toi, nous, en termes d'improvisation. Qu'est-ce qui se passe sur le territoire en juin et même en Pays de la Loire?
Écoute, dans les Pays de la Loire, j'ai pas eu la prétention de fouiller jusque là, mais tu te souviens, là, au dernier édito impro, on avait un calendrier qui était vraiment chargé. Et là, c'est simple, cette semaine, il y a rien. D'accord? Mais ça revient, donc ça veut dire que tout le monde s'est fait une pause d'une semaine et on revient la semaine d'après. Donc le vendredi 13, il y a deux spectacles, la Lima qui est au Welsh à 20h pour son cabaret, les Improfolies qui vont faire leur fête de Noël aux Petites Folies à 19h30 pour un cabaret, mais surtout, et je trouve que c'est un beau message parce que ça a rapport avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui, samedi le 14, l'Impro Très Lasé propose son tournoi de Noël. Et le tournoi de Noël, ce sera pour amasser des fonds pour l'association Marie, Rêve et Espoir, justement pour les rêves d'enfants malades, on en parlait que ça... Tu vois, comme si tout était prévu. Fantastique. Donc, à 14h, il y a donc à la salle Ginette Leroux, il y a les Têtes de Pioche, donc du collège Jean Rostand, qui affronte les surcharges mentales, le groupe adulte, à 14h. À 17h, il y a l'Imaginoire qui va rencontrer l'équipe des improfs, l'équipe d'impro des profs du collège Jean Rostand. Ouais, on est rendu là, Impro Très Lasé, voilà. Et à 20h30, il y a un match étoile, voilà, proposé par Impro Très Lasé à la salle Ginette Leroux.
Bon bah finalement il se passe pas grand chose, mais il s'en passe quand même un petit peu en termes d'improvisation. Merci beaucoup Charles, on se retrouve dans deux semaines. Il me semble que ce sera la dernière de l'année, de l'année civile, rassurons-nous. Charles reviendra bien évidemment dès janvier pour l'édito impro, toutes les deux semaines hein, tout simplement, donc ce sera le premier ou le deuxième mardi de janvier. Il nous reste encore un petit peu de temps pour parler du centre culturel Jean Carmé de Murérigny. J'ai vu Emma, elle a attrapé le micro de Charles pour... qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des dates encore à évoquer d'ici la fin du mois de décembre, Emma? Au niveau du CCJC.
Non, c'est juste que du coup, je me suis dit, ah bah tiens, le samedi 14 l'après-midi, les gens seront à Très Lasé, mais le matin, ils pourront être au centre culturel Jean Carmé, puisque c'est à 10h30 qu'a lieu l'Enfant et la Lune dont on a parlé aujourd'hui, qui est accessible dès 6 ans. Voilà, et au tarif de 5€, n'hésitez pas à réserver directement au CCJC ou en ligne sur notre billetterie.
Et ça, c'est un bon argument, autant se faire un samedi entièrement culturel, quitte à sortir l'après-midi, autant sortir aussi le matin.
Comme quoi, ça valait le coup d'écouter l'émission Topette, on a des activités pour toute la journée.
Exactement, alors je pose, c'est la traditionnelle question que je pose, le Père Noël au Centre Carmé, non, c'est prévu ou pas?
Le Père Noël au Centre Carmé, alors on aura également des contes de Noël qui auront lieu, je n'ai plus la date en tête malheureusement, mais à la médiathèque Jean Carmé. Ce sera sur la première semaine des vacances scolaires où du coup ce sera des contes qui seront mis dans une ambiance guirlande électrique, petite boule et puis voilà une belle ambiance pour ces contes là.
On prend beaucoup d'avance, mais est-ce que tu as retrouvé les dates de Ça Chauffe?
Tout à l'heure on les évoquait. Oui, j'ai retrouvé les dates de Ça Chauffe, effectivement. On a la chance d'avoir la programmation de Ça Chauffe qui va bientôt se lancer, la billetterie également. Pour l'instant, on garde encore un petit suspense sur la programmation, mais on sait déjà que Carabine Partie de la Syrinx de Pan en fera partie. Et donc, ce sera du 17 au 23 février. Une semaine entière de spectacles. Cette année, je crois qu'on a une trentaine de propositions différentes. Et donc, voilà. Donc, on a très, très hâte de pouvoir vous présenter tout ça plus en détail. Mais ce sera dans une des prochaines émissions Topette.
Caroline, en moins de deux minutes, concernant la Syrinx de Pan et l'Enfant et la Lune, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est un spectacle avec un sujet profond, sérieux, mais avec on ouvre l'imaginaire, la féerie en fait.
Oui, tout à fait. C'est un bon moment en musique, avec de l'humour, mais aussi pour parler de thématiques plus profondes et parler de vivre ensemble.
Le samedi matin, à le 14, c'est ça hein?
Exactement, le samedi 14 décembre à 10h30.
Je précise que c'est Emma, parce qu'on aurait presque pu confondre vos deux voix.
Bah ouais.
C'est la première ou pas? Non, il y aura d'autres...
La première.
Et donc la première d'une longue série, j'imagine, il y aura d'autres représentations.
Oui, on espère.
On espère. Plus d'infos sur syrinxdepan.com.
Oui, tout à fait, sur le site internet de la Syrinx de Pan, ou sur le Facebook, ou sur le Instagram.
Tout simplement, merci beaucoup Caroline d'être passée dans Topette ce soir. Benjamin, la prochaine fréquence que tu recherches en ce moment, c'est quoi? On pourra retrouver ton travail où, à part sur l'Enfant et la Lune?
Bien, on peut retrouver mon travail sur plein de fréquences différentes, sur le groupe Pete Bird, par exemple, qui va commencer à reprendre la tournée à partir de mars prochain. Et puis sur la chorale Courant d'air, une chorale de Montreuil-Juigné, où on propose un spectacle à la salle Claude Chabrol le 28, 29 et 30 mars prochain. Et voilà.
Eh ben, on a les calendriers commencent, les agendas commencent déjà à se remplir pour 2025. On se projette assez loin. Merci beaucoup, Benjamin, d'être passé dans Topette ce soir également. Bravo, Lucas, pour cette première. T'es toujours avec nous. Donc, c'est toi qui vas dire le Topette dans quelques secondes, si tu veux bien. Émilien, le synops, on a une date pour la prochaine séance d'enregistrement ou pas?
Oui, on pense avec Mathis à partir sur le film Conclave, qui est nommé aux Oscars. Voilà, on devrait aller le voir d'ici demain. Pour le coup, il a l'air excellent. En plus, là-dedans, on va pouvoir discuter du film, et puis derrière aussi ce qu'on pensait faire, on en reparlera, mais c'est qu'on prévoit de faire une émission spéciale aussi sur les Oscars, qui se passera cette fois sur Radio Campus Angers. Ça reste à venir, mais en tout cas voilà, Conclave pour le synops de la semaine prochaine.
Il fait de la pub pour la concurrence, il a rien compris.
Non, mais pas forcément, mais en tout cas voilà, dans les cursus des études en même temps, faut jouer un peu sur les deux terrains.
D'ailleurs, on sera mobilisé avec Radio Campus Angers pour Premier Plan, puisqu'on parle de ciné. Ce sera j'ai plus de date, c'est du janvier jusqu'à la semaine.
Radio G, en RNT à Angers. Radio G, un point c'est tout.